Donc avant d'attaquer Black Bart et son actualité, est-ce que tu pourrais nous présenter ton parcours artistique avant le groupe?
Avant le groupe, ben ça fait un petit moment que je traîne dans les milieux underground, parce que j'étais bassiste de Aeriops dans les années 80. J'ai fait un petit séjour d'Eisengoth aussi, un groupe de Roubaix qui était dans le, enfin c'est toujours de l'underground, hein. Eisengoth, j'ai participé à, j'ai participé à Two Faces. Enfin, je traîne McQueen depuis bien longtemps. Et donc, surtout des groupes qui n'ont jamais l'occasion de percer. Le peut-être le plus connu, c'est Aeriops, parce qu'à une époque, ça a un peu fait parler, ça a un peu fait parler dans la région.
D'accord.
Voilà. Et donc, avant Black Bart, qui maintenant vient d'où, est en route depuis 2008, donc depuis 12 ans, il y avait les Tontons Flingués, qui étaient un peu plus rock'n'roll. Voilà.
Et donc, quel a été l'événement ou l'idée qui a amené à la genèse de Black Bart?
En fait, dans les Tontons Flingués, on est trois vieux potes. On était déjà ensemble dans la toute première mouture d'Aeriops, donc tu vois que ça ne date pas d'hier. On avait un quatrième membre, qui est un guitariste, qui nous a quittés à ce moment-là. On a recruté un nouveau guitariste, qui est Rudy, qui est arrivé dans le groupe. Et puis, on avait à cette époque, on est arrivé au bout d'un cheminement sur les Tontons Flingués. On voulait revenir à nos bases beaucoup plus heavy que rock'n'roll. Et donc, du coup, c'était l'occasion de repartir, de faire une remise à zéro, de repartir avec de ce nouveau projet sur des trucs très très heavy. Donc ça a évolué au fur et à mesure de nos travails en répète, et pour arriver à la mouture actuelle. Donc si on prend chronologiquement, enfin on en reparlera peut-être tout à l'heure de la vie discographique, mais si on prend les quatre projets qu'on avait en route, on peut constater une très grosse évolution, de plus en plus heavy, même un côté un petit peu trash qui vient se mettre dedans de temps à autre. Donc
D'accord.
du 109 a fait que on a tout remis en route, et on a vraiment développé ce côté-là.
Ok. À l'origine, pourquoi le choix de la basse, qui est pas forcément l'instrument le plus évident, pas évident, mais souvent
Oh, ça remonte à l'Antiquité, ça. C'était au siècle dernier, quand je traînais au lycée avec des potes, il manquait un bassiste dans le groupe. Pendant mon premier job, j'ai acheté une basse. Le groupe s'est jamais monté, et moi j'ai continué à jouer de la basse. Voilà.
D'accord. Et un autre élément, donc tu chantes dans le groupe, tu chantes dans Black Bart, ça a été un choix
Ouais.
parce qu'il vous fallait un type qui chante ou t'avais depuis longtemps un intérêt pour le chant?
Ah non, j'ai été menacé et torturé pour en arriver là.
Ah bah oui, c'est bien ce que je pensais.
Ben j'en plaisante, mais non, au départ, dans le projet Black Bart, on était à deux à chanter. Il y avait Zozio, le guitariste, et puis moi-même, on se partageait les chants. Et puis Zozio a préféré se consacrer plus à la guitare, donc il a abandonné au fur et à mesure, au fil des mois, sa participation à la partie chantée.
D'accord.
Bon, il se contente de faire des chœurs.
Parce que pour quelqu'un qui n'est pas forcément entre guillemets, fait pour ça dès l'origine, il y a deux grands défis, en tout cas j'en vois moins deux. Un, le fait de sur scène devoir assurer et basse et chante, qui n'est pas forcément facile. Et deux, si on veut pouvoir assurer, il faut une certaine comme hygiène de vie, pour pouvoir ne serait-ce que sur les sessions d'enregistrement à arriver à un certain niveau. Comment tu vis ça?
J'ai eu des difficultés au départ, déjà à assumer le fait de passer chanteur, qui était, je me suis toujours considéré, très longtemps encore après ça, considéré comme le bassiste, pas comme le chanteur. Et puis à un moment, en s'apercevant que les critiques qui arrivaient sur l'album, ça devait être après le premier, Black Bart, que finalement, ben, ça passait plutôt bien, et que dans les critiques, on disait que ça faisait partie de l'image générale du groupe. J'ai un peu plus assumé. Maintenant, je porte ça assez bien. Quand tu parles d'hygiène de vie, je n'en ai aucune. Donc voilà. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Je suis comme tous les chanteurs de heavy. Je bois de la bière. Je ne fume pas, par contre. Mais bon, je ne fais pas attention à me protéger ma voix ou quoi que ce soit. Donc,
D'accord, mais même, je me disais, c'est uniquement souvent le bassiste, c'est un peu le type qui est au fond à gauche, j'exagère. C'est le
Oui,
type
celui
plus
qui
dans
est près
l'ombre
des
et qui.
toilettes et qui attend que les gonzesses ne chopent rien.
Ouais, et là tout d'un coup,
C'est un peu ça la légende.
et là tout d'un coup, t'es dans la lumière, et même au niveau scénique, enfin, le chanteur, on s'attend à ce que il implique le public, voilà, c'est comme un autre. État
Je ne peux
d'esprit.
pas me servir de mes mains parce qu'elles sont occupées, mais bon, je donne de ma personne quand même. Bon, si tu as l'occasion d'aller voir sur
Les
la page
vidéos là de.
Facebook, il y a quelques vidéos. Donc,
Que donner à lors d'une session Fnac et puis après en sur scène.
oui, sur scène, dans des petits bouges de la région lilloise.
Et dernière question avant d'attaquer plus l'actualité. Le chant en français, ça a toujours été le projet dès l'origine?
Alors, c'était dans la mouture précédente, donc dans Les Tontons Flingués, puisque Zozio chantait, il était chanteur dans deux groupes auparavant, en même temps qu'il était guitariste. Là, il chantait en anglais, puis là, quand on a monté ça, il a dit oh, ouais, mais là, moi, je ne veux pas chanter en anglais parce que je maîtrise rien, et puis il n'est pas du tout anglophone, donc il fait ça un petit peu. Il faisait ça à l'époque un petit peu à contre-cœur. Donc on a décidé d'écrire en français. À l'époque, j'écrivais déjà les textes, donc j'ai changé. Au lieu de les écrire en anglais, j'ai écrit en français. Et puis voilà. Et on
D'accord.
a continué ça quand on a monté Black Bar, parce qu'on a estimé que ça marchait bien. Les retours qu'on avait par rapport au chant en français étaient bons. Et on a dit, ben, on va continuer. Pourquoi ne pas persévérer là-dedans?
Oui, absolument. Bonne réponse. Si on revient un tout petit peu en arrière, finalement, si on prend la période de l'album précédent, alors que j'ai peut-être affreusement mal prononcé, Kanye With Back. Qu'est-ce que tu retiendrais de cette période? Est-ce qu'il y a un souvenir en particulier qui pour toi un peu synthétiserait cette période?
C'était déjà une grosse évolution. Là, on accentue vraiment le virage beaucoup plus heavy qu'on n'a pas dans notre écran avec. Dans notre écran avec, on peut séparer en deux parties. Il y a une partie, il y a la moitié des titres qui sont heavy, les autres qui sont encore hard rock. Et là, on a pris le virage, on a pris la décision, on a foncé tout droit. Et donc, on l'a travaillé, on l'a préparé longuement. Il y a, je sais pas, je l'ai sous les yeux là, il y a quelques titres, qui ont été bien porteurs sur cet album. Et donc, que te dire, l'état d'esprit était vraiment, vraiment heavy, quoi. On a vraiment cherché à déjà affiner nos copeaux. Et il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas de recherche de ressembler à quelque chose. Il y a la volonté de faire notre musique, en fait. Donc, c'est vraiment un vrai tournant à ce niveau-là.
D'accord. Finalement, si tu avais. Imagine quelqu'un a jamais entendu parler de Black Bart, il n'a pas eu l'occasion de vous entendre, grosse erreur. Comment tu décrirais votre musique? Alors, soit peut-être par. Si tu as un moyen simple de le décrire, ou peut-être par les influences ou les groupes qui font l'unanimité au sein de votre quatuor.
Il y a pas de groupe qui font l'unanimité au sein de notre quatuor, on a tous des sources différentes. Alors c'est peut-être un peu ça qui fait le mélange. Alors je vais essayer de te définir un peu. Pour Rudy, ce serait Running Wild, AC/DC, Megadeth. Pour Marco, ça peut aller de Imouvrini jusqu'à Peter Gabriel, en passant par Megadeth, en passant par Judas Priest. Enfin, il a un panel très très large. Josio, bah il est beaucoup plus hard rock, j'ai pas de nom qui me viennent comme ça, de groupe de référence, mais lui aussi il a un panel assez large dans ce qu'il écoute. Et pour moi, c'est toute la grande famille du heavy metal. Je suis le grand collectionneur de disques de heavy. Donc, je vais te citer les derniers que j'écoute, les dernières découvertes, genre Avatar, ou là, j'ai devant moi le dernier Annihilator. Donc, c'est
D'accord.
assez vaste.
D'accord. Donc finalement, il y a 2 ans, vous avez sorti donc un album. Et puis, dans ce cas-là, souvent pour la suite, il y avait deux options. Soit Vous vouliez vous rappeler au bon souvenir et raviver la flamme par un disque plus court, donc un EP mais plus rapide, ou un album mais peut-être sortir plus long. Donc il semble que vous ayez fait le choix de l'EP. Est-ce que j'ai les bonnes raisons ou pas?
C'est des bonnes raisons parce que c'est à la fois la continuité de Kaznevounbar et c'est à la fois les prémices. En fait, quand on a enregistré ces quatre titres-là, on en a enregistré plusieurs autres. L'idée, c'était de faire un album complet et une opportunité s'est présentée au niveau du pressage en se disant, tiens, il y a une belle promo là pour sortir un single. Et on s'est dit, on a des titres de prêt, ça fait déjà 2 ans qu'on a sorti l'album, faut pas qu'on se fasse oublier non plus, faut rester dans les circuits. Et donc, ça s'est imposé de lui-même. Sachant que, on a de nombreux titres déjà prêts, d'autres déjà enregistrés, d'autres qui sont en préparation. Et il ne manque plus que en gros que les finances et puis qu'on puisse retourner dans notre salle de répète parce que là avec la Covid on est un peu coincé
C'est ça.
et pour pouvoir peaufiner cette affaire.
Donc, une fois le peuple français libéré, entre guillemets, on peut espérer quelque chose d'assez rapide pour la suite?
Moi j'aimerais, après ça dépend des finances. Hein, puisque on s'autofinance depuis bien longtemps, les concerts nous ramènent un peu d'argent, ça nous permet de financer les frais qu'on a sur les albums. Là, cette année est totalement infructueuse.
C'est clair.
À ce niveau-là, c'est clair, hein, c'est une année blanche à tous les niveaux. Donc ça va certainement retarder nos envies, mais l'envie est là. Et donc, si des financiers ou des maisons de disques sont intéressés, nous sommes tout à fait ouverts aux propositions.
Eh bien, écoute, l'appel est lancé.
Tout à fait, j'en profite.
Mais il faut. Finalement, au fil des années, quel process vous avez mis en place? Comment on est une chanson au sein de Black Bart?
Alors, ça part souvent de pas grand-chose. Hein. C'est comme on arrive à des horaires décalés aux répètes, bien souvent on commence à gratouiller dans son suivant l'heure où on arrive. Alors, quand ce quatrième arrive, les trois premiers ont déjà fait le couplet, le refrain, et puis ils viennent de la faire dessus. Il y a beaucoup des morceaux qui sont là, qui sont issus de cette manière.
Donc c'est du
Et de
jam,
temps en temps,
c'est de la jam quoi. Enfin vous.
c'est de la jam. Ouais, on a un mécanisme qui fonctionne bien à nous quatre. Donc, les idées sont donc répertoriées. Et puis de temps en temps, on les enregistre aussi pour les garder parce qu'on les travaille pas forcément systématiquement dans la foulée. Si on a des choses en route, mais c'est jam oui et non parce que on va se bloquer sur cette idée-là sur 1 ou 2 heures et en essayant de la construire. On n'est pas à jouer en boucle jusqu'à temps que ça sorte à quelque chose. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
C'est plus structuré que faire une jam.
D'accord. Et donc, on peut voir qu'au niveau des sessions d'enregistrement, il a c'est aussi, c'est, je suppose, par aussi obligation financière, vous faites beaucoup vous-même.
Tout à fait.
J'ai vu que tu
Ben moi.
assures enregistrement mixage, au moins.
Oui, ben moi je suis technicien son, donc à la base,
Ça aide?
donc ça aide au quotidien. Et donc j'ai investi de l'argent dans mon home studio et j'essaye de faire des choses d'une qualité suffisante. Après, ce que je constate quand même, c'est que quand on a l'étiquette collée d'autoproduction, il y a tout de suite un a priori défavorable au niveau de la production dans les écoutes. Alors on fait de gros efforts pour arriver à un niveau le niveau qu'on espère bon, hein, professionnel entre guillemets. Et donc c'est vrai que enfin, c'est mon avis, je pense que nos productions tiennent la route. Après, c'est vrai qu'on n'a pas de gros moyens, donc on fait avec ce qu'on a. Heureusement qu'on a des petits coups de pouce de temps à autre, genre la pochette de Kaznevounbar
Bastan.
que bah, peut-être hein, qui est fantastique et qui a été faite par Stan W. Decker. Bon, on a été un peu plus chiche sur le single parce qu'on l'a fait très vite. On n'avait pas de temps de solliciter un graphique. Mais il y a des petites surprises quand tu regardes bien la pochette.
Oui, on y reviendra, c'est prévu.
tu vois à contre-jour
Il y a deux
ton sur
personnages,
ton
ouais.
les personnages du Jolly Roger de John Bartholomew Roberts.
D'accord. Je regardais. Alors, j'ai pas forcément le détail sur le single, mais en tout cas sur l'album précédent. Il y a des titres. Donc, toi, tu assures toutes les paroles.
J'assure toutes les paroles, tout à fait.
Et au niveau musical, c'est très varié. Parfois, c'est Rudy. Parfois, s'il y a des titres, c'est toi uniquement. Et puis, la plupart du temps, c'est un effort de groupe.
Voilà, c'est souvent ça. Alors, en fait, bon, on essaye de respecter un peu tout ce qu'amène tout le monde.
Donc par exemple si on prend l'exemple de donc sur l'album toi t'es arrivé avec enfin tu signes la musique complète de Headbangers of the World
Oui.
donc t'es arrivé en salle de répète avec un titre enfin un squelette quelque chose et puis tout le monde s'est greffé
Là,
dessus ou
j'avais le morceau complet, oui, tout à fait.
d'accord
J'avais le
t'avais
morceau complet, il y a eu des discussions, des tergiversations, des ajouts, des retraits, etc. Parce que tout le monde, même si le morceau arrive complet, le processus reste le même avec les morceaux qu'on fait directement en salle de répète. Que tout le monde en dit vraiment. On essaie de jouer, on se dit bah non, bah ce passage-là, moi je le verrai mieux comme ça. Et puis on essaie, ça marche, c'est bien, ça marche pas, on essaye autre chose.
Et
C'est le même processus.
vous arrivez à vous accorder à 4, ça reste démocratique.
Ça reste démocratique, ça passe des fois par des haussements de voix, mais on va jamais jusqu'aux on n'a jamais été jusqu'aux empoignades. Non, on arrive toujours à trouver un compromis.
D'accord.
Enfin, le compromis est pas un mot que j'aime bien, mais c'est une entente, on va dire. C'est plus fin comme terme.
Oui, chacun fait un pas vers l'autre et on arrive.
Voilà, exactement.
D'accord.
Exactement.
Finalement, pour mettre en boîte là les quatre titres, donc tu disais vous en avez mis en boîte d'autres, mais là vous en sortez quatre pour un apéritif. Ça vous prend combien de temps en moyenne?
Je dirais que ça dépend du temps dont on dispose surtout. Quand on les a enregistrés, ça nous a pris environ 2 mois pour les mettre en boîte parce que ben, il y en a plus que quatre. On en a fait quand on les a mis en boîte, on en a mis 8. On en a enregistré 8. Donc c'est à peu près comme on faisait ça qu'une journée par semaine, tu vois, ça prend vite du temps. Donc, je ramène du matos à la salle de répète, on enregistre, on ref... Non, en fait, on a une manière de travailler qui est un peu bizarre. On enregistre façon jam tous ensemble. Et je réenregistre après les batteries toutes seules. Et après, on réenregistre instrument par instrument. Histoire
D'accord.
d'avoir une base complète pour tous les points de repère. Et puis on repasse dessus et on retravaille individuellement après derrière.
D'accord.
Donc,
Bon, si ça marche bien comme ça, pourquoi changer, hein?
exactement, on va continuer comme ça. D'abord, ça a un gros avantage, c'est que ça nous permet de pas dépenser trop d'argent dans un studio. C'est vrai qu'on pourrait se dire qu'en un studio, on aurait certainement plus de moyens techniques. Mais c'est toujours le rapport finance-temps qui vient se mettre en ligne de compte. Hein.
Et donc au niveau des paroles, quel est ton... Là aussi, est-ce que tu t'es mis en place un processus? Quelles sont tes sources d'intérêt, d'influence? Comment tu travailles ça en amont?
Alors, ben, je travaille en général directement une fois que le morceau est en route. Donc, je peux commencer très tôt. Il suffit qu'on ait le début des couplets-refrains, par exemple. Et là, en général, la semaine qui suit, j'ai déjà une ébauche de texte. Ébauche de texte qui va aussi structurer le morceau derrière, parce que j'essaie d'avoir une structure, une progression dans l'écriture. Alors, de ce fait, ça peut faire changer au niveau des structures qu'on avait prévues au départ. Donc on compose la musique, j'arrive avec le texte. Pour les thématiques, c'est un peu comme ça vient sur le moment. Alors ça peut être un coup de gueule par rapport à un événement d'actualité, ça peut être une aventure de pirate. J'ai exclu depuis bien longtemps les histoires d'amour. Et puis voilà. Je sais pas si tu prends l'exemple de, je prends le premier de Casne Gundbar, c'est Peïssi Batovaric. C'est un coup de gueule suite aux événements en Ukraine et en même temps un coup de gueule, soit c'était l'explosion de Daesh en même temps. Donc je fais un mélange entre les deux, avec en partant de la base d'un mauvais jeu de mots. Peïssi Batovaric. Alors j'aime bien les à peu près, c'est un humour un peu particulier, ce qui est très utilisé par Stella, par exemple, un groupe belge. Donc paix ici-bas, ça peut vite s'entendre comme spaciba, tu vois, comme merci tovarishman. Donc voilà, ça se base là-dessus, mais c'est pas forcément la démarche sur tous les titres. Si on prend The Flying Dutchman, c'est l'histoire du vaisseau fantôme. Une version que j'invente par rapport au vaisseau fantôme n'est pas forcément historique, mais de temps en temps, je viens rechercher des petits éléments historiques pour alimenter les textes. Introspection, par exemple, c'était un texte que j'ai écrit en pensant à tous les otages qu'il y avait à une époque dans le désert, les otages français, en imaginant ce qu'ils pouvaient penser pour se sentir, pour passer cette période, en fait.
Et donc, tu es du genre à avoir des idées à tout moment et donc avoir des phrases dans ton téléphone portable que tu notes ou non?
Ça m'arrive, j'ai un petit carnet sur lequel quand j'ai un truc, je commence, mais souvent ça part dans l'ordinateur, je les recopie dans l'ordinateur et puis ça ressort. Là, je suis en train de travailler sur une compo, j'ai ressorti un texte que j'ai écrit il y a 4 ou 5 ans. Donc quand j'ai des trucs un peu structurés, je les retape sur mon ordi, histoire de les conserver pour pas perdre des idées.
D'accord. C'est un, comment dire, ça reste un plaisir ou c'est une épreuve?
Ah non, c'est un plaisir. C'est un
D'accord.
vrai plaisir. C'est un vrai plaisir de mettre des mots sur la musique. Là, c'est un des passages. Ça, faire le mixage, c'est aussi le passage que j'adore aussi. Structurer les choses pour pouvoir arriver à ce que tu as envie à la fin.
Tu pourrais chanter les mots d'un autre ou tu as besoin que ce soit les tiens?
Je pourrais chanter les mots d'un autre. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça ne se présente pas parce qu'il n'y a aucun autre membre du groupe qui veut s'y coller. Et puis comme je n'ai pas de critique à ce niveau, critique interne, je parle, à ce niveau, c'est qu'ils considèrent que je fais que ça leur convient aussi.
Ok. Justement, donc vous avez sorti un clip qui est un montage donc de différentes images prises de ces dernières années pour le panier de crabe.
Oui.
Ça a été fait au sein du groupe, je suppose.
Alors, ben ça, c'est les conséquences du confinement, mon bon monsieur.
Ah, un de plus?
Puisque nous sommes contraints à ne rien faire, ben chacun, enfin, Rudy s'est collé pour le panier de crabe. De mon côté, moi, j'ai travaillé aussi sur d'autres titres comme qu'est-ce que j'ai fait en vidéo d'ailleurs, tiens, j'ai regardé ça. Le dernier voyage qu'on a fait en vidéo, il y a Mamon qui est sorti, sur lequel on a fait une vidéo, Le Maître sur lequel on a fait une vidéo. Là, il y a Headbanger of the World, parce que justement, c'était un peu inspiré par l'émission Headbanger Balls. Et c'est un qui devrait passer en vidéo, mais on a des petits soucis avec Facebook qui veut pas certaines images.
Ah,
Ah,
sacré Facebook.
des charmantes plantureuses qui s'exhibent.
Ah ouais,
Voilà.
il peut y avoir des horreurs pas possibles, mais alors un bout de
Ouais,
16,
tu
c'est
peux
peut-être
voir.
dingue.
Ouais, voilà, c'est
D'accord,
la bêtise
je vois.
du pura, du, enfin, j'allais dire
Puritanisme, oui, c'est ça.
du puritanisme américain.
C'est ça. D'accord, donc il y a pas mal de choses dans les tuyaux, et donc on peut surveiller un peu la chaîne YouTube du groupe, ça va sortir quoi.
Tout à fait, tout à fait. Bah déjà sur la page Facebook, tu peux avoir celle de Maman, tu peux avoir celle du Maître, tu peux avoir le dernier voyage.
D'accord.
Ils sont déjà actifs. en plus de, du panier de crabe.
Ok. Finalement, l'espèce de enfin, ça fait 6, ouais, allez, un peu plus de 6 mois, un peu dingue, là, qu'on vient de passer. Bon, effectivement, gros impact sur le groupe parce qu'il n'y a pas de scène, il n'y a pas de. Mais ça, vous avez quand même pu, comment dire, en sortir du positif, en, voilà, en accélérant, enfin, en composant plus, en.
On était assez productif là les depuis septembre, puisqu'il y a trois morceaux, quatre morceaux qui sont quasiment, trois sont terminés, un qui est sur la fin. On a dû être coupé dans notre élan, parce que comme on va pas pouvoir répéter, les problèmes de circulation. Moi, tu vois, on est un peu éparpillé. Notre point de chute, c'est la banlieue lilloise, mais on est un peu autour, donc certains d'entre nous ont beaucoup de kilomètres pour aller répéter.
Ouais, bizarrement, il n'y a pas répétition sur l'attestation gouvernementale.
Non, il n'y a pas répétition, il n'y a rien pour l'artistique, il n'y a rien pour enfin, se libérer l'esprit. J'étais un peu insurgé cette semaine. Je regardais le match du rugby, je vois notre cher ministre des Sports qui vient dire oui, on va maintenir les épreuves sportives internationales et nationales pour que les gens puissent profiter de, même si c'est en huis clos, puissent profiter, se détendre. Je veux bien, on peut dire la même chose avec la culture. Moi, je travaille dans la culture et je suis assez frustré de ne pas pouvoir aller travailler.
Ben oui, je comprends bien. Finalement, avec le recul, puisque comme tu disais, tu as pas mal d'expérience de la scène, underground ou pas, ça n'a pas d'importance. Comment tu vois la scène métal nationale depuis la banlieue lilloise?
Eh bien, on voit qu'il est assez difficile de sortir de sa petite région quand tu es en groupe amateur. Maintenant, il y a quelques groupes qui nous rendent visite, qui nous font bien plaisir. Des gens comme ADX ou Vulcain qui n'hésitent pas à venir tourner régulièrement et nous rendre des petites visites comme ça. Il y a la reformation de Sortilège qui est intéressante pour ceux qui connaissent. Après, il y a des groupes porteurs, et je pense notamment à quelques copains qui sont dans Zoé, par exemple, qui viennent de sortir un nouvel album, après un long moment de silence aussi. Donc c'est assez varié, d'ailleurs la scène française est vachement riche en fait.
La proximité à la Belgique, c'est un avantage ou pas?
Non.
Non,
Non,
ça ouvre pas de
parce
nouvelles
que...
opportunités?
Moi, je suis sur le Dunkerquois et on est près de la Flandre. C'est un peu plus compliqué parce que là, on a en plus la barrière de la langue. La région plus Wallonie, ben, c'est pareil. Il faut avoir les liens pour pouvoir aller se produire là-bas. Bon, ben, on est un peu en contact avec les gens de Drakkar et donc on a eu quelques propositions pour aller à Lens en Belgique, pas à Lens en France. Mais bon, ça s'est mal goupillé parce que enfin, on avait des impossibilités. Donc, mais bon, on espère bien aller faire un petit tour là-bas aussi.
D'accord. Et donc pour terminer cette interview, finalement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les temps qui viennent?
Pouvoir faire de la musique.
Ah bah donc c'est facile.
Ah, c'est facile, hein, c'est facile. C'est
Suffit de
pouvoir
sortir de la
faire des
pandémie.
concerts. Pouvoir faire des concerts, vivement la fin de la pandémie, qu'on puisse aller
C'est clair.
suer un peu à grosses gouttes sous les projecteurs et faire suer quelques grosses gouttes à ceux qui viennent nous voir.
D'accord, bah en tout cas c'est le meilleur qu'on vous souhaite à vous et à nous tous, hein. Ça nous fera des vacances.
Bah écoute, on espère ça avec une grande impatience.
Écoute.
Et puis en plus, c'est totalement bizarre. Là, on est en train de faire de la promotion d'un album qu'on ne peut pas défendre autrement que vocalement, j'allais dire, c'est pas vocalement, c'est que par les médias, on peut même pas le défendre nous-mêmes devant le public, quoi. C'est un
D'accord.
peu étrange.
Ok. Et pour terminer, on a juste un petit quiz. Enfin, c'est pas un quiz vraiment, c'est juste quelques questions sur les goûts musicaux de notre interlocuteur. Donc, c'est 4-5 questions voilà, pour essayer de cerner ton identité musicale. La chanson que tu aimes le moins dans votre discographie?
Dans notre discographie,
Oui.
Ouais, je les aime toutes.
Bon, bah, bonne
C'est
réponse.
comme des, c'est voilà, c'est comme des enfants. Ouais, il n'y a pas de préférence.
D'accord.
Une fois qu'elle est sortie, elle ne bouge plus. C'est un peu de, voilà, des fois on aimerait bien les remanier,
Ok,
mais
non,
bon.
pas de chanson que tu aurais adoré avoir composée.
Oh, il y en a tellement. Il y en a tellement. Alors, qu'est-ce que je vais te. Il y a des gros standards, mais je voudrais trouver qu'autre chose que c'est qu'un gros standard. Ah, il y a un ou deux morceaux des Ozzy Osbourne que j'aurais bien aimé avoir
D'accord,
fait.
d'accord.
Voilà, genre Diary of a Madman.
Diary of the Madman. Ok, bon choix. Imagine pour le prochain album, tu as le choix d'un invité, mort ou vivant. Tu prends qui?
Ah, je vais rester sur Ozzy.
Ok.
Un petit guest avec Ozzy, ça me plairait bien.
Ok. Vous avez la possibilité de vous produire en concert n'importe où dans le monde. Tu vas où?
Hellfest.
Hellfest? Ah bah, ça c'est envisageable.
Pourquoi pas, oui, ça pourrait. Ça pourrait.
Et toute dernière question, ton album préféré de l'année jusqu'à présent?
De l'année jusqu'à présent. Pas facile. Pas facile. Je vais rester sur Avatar.
D'accord,
Le
et c'est quoi?
dernier sorti, j'ai plus le titre en tête, mais qui
Ok.
est toujours aussi barré et aussi surprenant. Donc moi ça me plaît beaucoup ça.
Parfait, bah écoute, un grand merci d'avoir pris le temps de répondre.
Et ben c'est moi qui te remercie de nous accorder ce temps.
Et puis, bah donc, tous nos voeux pour la suite et on croise tous les doigts pour
Merci
sortir
beaucoup,
de
merci
cette
beaucoup.
période. À
Merci
bientôt.
et à bientôt peut-être.
Merci,
Ciao.
ciao.